hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors-champ, ce soir en compagnie de Gianfranco Rosi. Gianfranco Rosi, vous êtes cinéaste, documentariste, vous avez fait plusieurs films qui ont été remarqués, dont un film Below Sea Level qui a obtenu le Grand Prix du cinéma du réel et qui a eu de grandes récompenses à travers de nombreux festivals. Vous avez présenté à Venise un film choc, El Sicario Room 164. Comment vous avez découvert le cinéma ?
Moi, je n'ai pas une expérience de cinéma. J'ai commencé en étudiant. J'ai vécu dans des pays où le cinéma n'existait pas, en Afrique, en Turquie, au Liban, pendant certaines années. Pourquoi ? Parce que c'était le travail de mes parents. Je voulais être médecin, en fait. Je voulais faire la médecine. Donc j'ai fait 2 ans de médecine. Lorsque j'étudiais la médecine, en face de là où j'habitais, il y avait une cinémathèque. Et là, j'ai commencé à regarder des films, petit à petit à rentrer dans ce monde du cinéma. Puis un jour, j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Et je me suis inscrit, j'ai fait un petit film, je me suis inscrit à l'école de cinéma à la New York University. Et là, j'avais 21-22 ans, j'ai commencé mon histoire de cinéaste. Toujours très confuse parce que lorsque vous m'avez demandé des points de référence sur le cinéma, j'en ai pas. Parce que c'est toujours lié à des images, à des moments où j'ai décidé de ne pas créer un parcours de référence. Et tout est un peu... Je prends des choses, j'en laisse. J'essaye toujours de ne pas me lier à un nom. Lorsque je vois un film j'aime bien, j'essaye d'oublier même l'auteur. Mais je prends avec moi des images, des sensations, d'une poésie, d'une image, naissent des idées d'après un parcours intérieur. Et cette ignorance dans le domaine cinématographique me donne une très grande liberté, parce que les films que j'ai faits, qui sont peu nombreux, partent toujours d'expériences personnelles sans point de référence précis. Cela me donne une grande liberté. Je n'ai pas d'inhibition d'un parcours qui a été fait par des auteurs géniaux avant moi. J'essaie toujours d'en savoir le moins possible sur le cinéma.
Mais comment s'est opéré le déclic de choisir le cinéma comme discipline artistique ?
J'ai choisi de faire des documentaires parce que ensuite ça devient un parcours personnel, très long. Moi, pour faire un film, j'ai mis mon premier film, Boatman, que j'ai fait en Inde. Je suis parti sans connaître la caméra, sans savoir tourner, sans connaître la structure d'un film documentaire. Et au cours de ces 5 années de tournage, ce film de 50 minutes, j'ai mis 5 ans. C'était comme un parcours pour chercher aussi mon propre langage narratif. Donc ça a toujours été un parcours personnel au cours du temps. J'arrive à comprendre, à développer une histoire. Mais lorsque un film démarre, ça part d'une recherche, d'une histoire, lointaine. Petit à petit, il y a des personnages et des rencontres. Donc d'après moi, le cinéma naît de rencontres.
Ça, on le sent très fort dans votre cinéma, Gianfranco Rosi, le sens de la rencontre. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vouliez devenir médecin. Comment avez-vous trouvé ces Boatman in India ?
Boatman, je l'ai trouvé là aussi lorsque je suis parti. J'avais fait un petit film à Miami où il y avait des situations liées à l'eau. J'ai fait un film de 5 minutes et un ami l'a regardé et un ami indien m'a dit il faut aller à Benares parce que le monde de l'eau, c'est vraiment fondamental dans l'expérience indienne. Et je suis allé à Benares en cherchant cette association entre l'eau de Miami et l'eau d'un fleuve sacré. Et pendant des mois, j'ai tourné avec ma caméra dans la ville de Benares, sans trouver une seule image avec laquelle démarrer. À la fin de mon voyage, j'avais décidé d'arrêter, de ne plus faire ce film, et de faire le touriste pendant une journée. Et en cherchant un batelier, j'ai rencontré Gopal, qui est devenu le protagoniste. Il a passé une journée dans le film. Après cette journée, en rentrant à l'hôtel, j'ai pensé que le film à raconter, c'est l'expérience que j'avais vécue. Donc au cours des années, le film est devenu l'évocation d'une journée que j'ai vécue. Je n'avais aucun élément de narration, à tel point que je pensais pouvoir tourner le film en un jour. Mais le lendemain, je l'ai retrouvé, j'ai commencé à tourner, et c'était impossible à faire comme ça, lié à des sensations en une journée. Donc je suis revenu au cours des années en cherchant de réévoquer, de reparcourir à nouveau cette journée que j'ai vécue avec lui. J'ai dû employer 5 années pour combler cette journée. Et de là est née cette manière très intime de créer un documentaire. Au-delà de l'analyse et de la cause et de l'effet, ça a toujours été le récit d'une rencontre.
Vous n'aviez pas de culture cinématographique et pourtant il y avait un film qui a marqué votre mémoire, Gianfranco Rosi, c'est Los Olvidados de Buñuel.
Oui, parce que peut-être c'est le film qui reflète la ligne qui sépare la fiction du documentaire. C'est toujours cet espace-là sur lequel j'essaye de me déplacer. C'est lié à des personnages et des rencontres. Mais dans ce film-là aussi, on ne comprend jamais où commence la réalité et où la fiction commence à arriver. C'était une ligne très forte. Maintenant, si vous me demandez de vous raconter ce film, je serais incapable de le faire. Je me rappelle une sensation très forte, d'un film que je ne veux plus revoir. Mais c'est la sensation de ce film que j'ai gardé en moi. Il y a un cœur de voix de ce film qui est une référence. Je ne veux pas le voir parce que probablement je serai déçu. Et je créerai. C'est une référence très intime, un peu floue, mais c'est une voix que j'ai à l'intérieur.
Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad.
Tan grandote y tan gacho.
Mariquita.
Y además me tengo que ir a trabajar, hombre.
El trabajo es para los burros.
Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos vicenteando.
Mira qué delicado.
Párate. ¿Sabes a quién vi?
No, ¿a quién?
Al Jaibo.
¿Al Jaibo?
Sí, se escapó de la escuela correccional.
Oye, ¿quién es el Jaibo?
Comment choisissez-vous vos thèmes de documentaire? Parce qu'on parlait de ces Boatman in India, mais il y a eu ce film extraordinaire, Below Sea Level. Comment avez-vous découvert cette communauté et comment avez-vous décidé de la filmer?
Below Sea Level est le point d'arrivée d'un parcours assez long. Parce qu'avant d'arriver à ce lieu qui est une communauté,
À
quelques heures de Los Angeles, j'avais parcouru tous les déserts des États-Unis. Je savais que le désert était mon protagoniste de mon film. Mais à l'intérieur de ce désert, il fallait que je trouve des personnages. Donc pendant 2 ans, j'ai tourné avec un campeur plusieurs régions dans tous les déserts, le Nevada, l'Utah, la Californie. Et un jour, en tournant, j'avais rencontré deux ou trois histoires que j'avais commencé à développer. Tout ça en Super 16. Mais la production s'est arrêtée, j'avais plus d'argent pour continuer. Et en revenant à Los Angeles, un ami me parle de cette communauté à quelques heures de Los Angeles. J'avais trouvé finalement un lieu très renfermé qui synthétisait tout le voyage que j'avais fait dans les mois précédents. En arrivant à cette communauté, j'ai commencé à vivre avec eux sans penser à faire un film. C'était comme une rupture pour moi. Un film qui se terminait et qu'il fallait que je commence quelque chose d'autre. J'étais plutôt en crise d'ailleurs, du point de vue humain et artistique. Et donc, de cet endroit, en vivant avec cette communauté, j'ai rencontré des personnages, j'ai compris qu'un film pouvait naître. J'ai rencontré Ken d'abord, puis Lily et d'autres personnages. Il y a eu des histoires de rencontres très profondes. Je ne savais pas quelle direction allait prendre le film, mais je savais qu'il fallait que je suive une histoire et le récit de ces personnages. Et ainsi s'est créée cette confiance réciproque, parce qu'ensuite chacun doit donner celui qui filme comme celui qui est filmé. C'est une situation de rencontre très intime. Et de là est né le film. Je n'avais pas d'idée sur où le film allait arriver. Petit à petit, il s'est conclu avec ces rencontres de 7 personnages. Et paradoxalement, le film El Sicario, c'est un seul personnage qui part du monde des cartels, de la guerre des cartels, avec les 28 000 morts qu'il y a eu au Mexique, donc au cours des 2 dernières années. C'est un personnage qui ensuite raconte cette réalité El Sicario.
Mais on peut dire, Gianfranco Rosi, que vous intéressez aux gens qui sont les oubliés de la société, qui sont en marge dans Below Sea Level. Ils ont reconstruit une sorte de monde utopique et un monde contre la société industrielle. Comment arrivez-vous à vous approcher de ces personnages en leur donnant tellement confiance qu'ils acceptent de tout vous livrer?
Peut-être parce que je ne les ai jamais jugés, en fait. Vivre avec eux, la vie quotidienne, on construit aussi un rapport intime d'amitié, de confiance, je le répète, confiance réciproque. Donc je ne les ai jamais considérés ni comme des marginaux, ni comme étant éloignés. Le rapport avec eux, au niveau humain, est très direct. C'est un regard que l'on croise. C'est de là que naît le film. C'est la même chose avec El Sicario. C'est un personnage que j'ai rencontré. Donc le Sicario raconte un monde intérieur de ce personnage. Ce n'est pas un documentaire sur les cartels ou sur la drogue ou sur le monde de la drogue, de la catastrophe que subit le Mexique. Ça raconte l'intimité d'un personnage qui ensuite devient universel. Comme le dit mon co-auteur, c'est un personnage qui est autour de nous. C'est un personnage que l'on voit partout, El Sicario.
Gianfranco Rosi, votre nom et vos 2 langues, vous avez un nom italien, vous êtes d'origine italienne, vous nous avez expliqué que vous avez beaucoup voyagé avant de choisir le monde du cinéma. Vous êtes italien ou vous êtes américain?
Non, je suis italien. Même si je suis un italien assez peu ordinaire, parce que j'ai beaucoup voyagé. Mon identité est certainement italienne. J'ai la double nationalité américaine et italienne, mais je me sens profondément italien. New York a été ma ville d'adoption, si vous voulez. J'ai vécu 20 ans, je suis encore résident aux États-Unis. J'ai une maison à New York. C'est l'endroit où je reviens régulièrement, même si je l'aime beaucoup moins en ce moment. Dernièrement, Paris a été vraiment un lieu très attrayant, où j'ai trouvé un lien très fort avec cette ville. Et l'Italie, je suis en train de la laisser.
fatto gli ultimi 5-6 anni.
Le 5 dernières années, je les ai passées en Italie. J'aimerais bien que Paris puisse devenir ma nouvelle New York. Un lieu où je peux... Le fait que je ne parle pas le français me fascine beaucoup parce que je comprends, mais vivre dans un endroit où l'on ne parle pas la langue me semble une grande liberté. Je ne parle pas le français, mais c'est un endroit où j'aimerais vivre, en essayant de ne pas apprendre la langue d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on apprend la langue, ne pas avoir de référence sur le cinéma, c'est pareil, je ne veux pas trop en savoir sur le cinéma. Quand on vit dans un endroit, je ne veux pas en savoir trop sur cet endroit, parce que quand on en sait trop, on commence à juger cet endroit, on prend ses distances. Donc c'est peut-être pour ça que je me déplace d'un endroit à l'autre. Lorsque j'ai su trop de New York, c'est une ville que j'ai commencé à moins aimer. Lorsque j'ai trop connu Rome, c'est une ville que j'aime moins. Et puis je dois me déplacer.
Mais je pense que si vous n'enseigniez pas à l'université de New York, vous n'auriez peut-être pas eu ce contact avec Charles Boden pour ce film El Sicario, et vous ne seriez pas intéressé à cette histoire et à ce problème politique qui perdure depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire cette fameuse frontière entre le Mexique et les États-Unis et tous les trafics illicites qui existent depuis hélas des décennies.
Absolument vrai.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Però la cosa strana è che
Mais la chose étrange, c'est que le personnage du Sicario est un personnage qui est sorti de 20 ans de travail de la part de Charles Boden, qui est l'auteur de l'article dont le film prend son inspiration. Lorsque j'ai lu l'article, je me suis dit, tiens, c'est un film que je dois faire.
Donc un article que vous avez lu dans Harper's Bazaar.
Oui.
Oui, en tout cas avec Charles, je le connaissais déjà depuis des années. Lorsque j'ai fait Below Sea Level, j'avais lu des livres. Charles est un des plus grands reporters et écrivains américains, d'après moi. Je l'ai rencontré. J'avais entendu une interview sur le désert en Amérique, et c'était le film que je voulais faire. J'ai lu ses livres. J'ai fini son dernier livre qui s'appelle Down by the River. J'ai pris mon téléphone, je savais qu'il vivait en Arizona, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les informations et j'ai dit « I would like to speak with Mr. Charles Boden ». Et il m'a répondu « This is me ». Et de là est née notre rencontre. J'ai dit « Voilà, je suis un metteur en scène italien, j'ai fait un film sur les déserts, je voudrais vous rencontrer ». Et il m'a dit « Ah, tu es italien ? Oui. Can you cook ? Tu sais faire la cuisine ?» J'ai dit « Oui, je sais faire la cuisine. Come by. » J'ai fait un voyage de 3 jours. J'étais à côté de San Francisco lorsque je l'ai appelé. J'ai fait un voyage avec mon campeur. Je me suis arrêté à Los Angeles, j'ai acheté de quoi cuisiner. J'ai apporté 2 bouteilles de vin et tous les ingrédients pour faire un excellent repas. Et on est devenus amis au cours des années.
Et donc, à partir du moment où vous êtes rentré dans une relation d'amitié avec cet écrivain, Charles Boden, vous avez eu le désir de transcrire au cinéma et de rencontrer l'auteur d'une de ses histoires, El Sicario. À partir de quand s'est opéré ce déclic pour vous? À partir de quand le désir est né de rencontrer ce personnage incroyable?
Le désir de rencontrer ce personnage s'est produit lorsque j'ai lu l'article qui m'a complètement ravagé, parce que ce que l'on voit, c'est un monde avec 2 lignes parallèles, la ligne de la criminalité et la ligne de l'État qui devraient être séparées, sont parfaitement en connivence. Et c'était très fort dans l'article de Charles. Le bien et le mal, on ne comprenait plus de quel côté ils étaient. Parce que j'ai demandé à Charles, mais pourquoi tu as écrit cet article si fort, si violent presque? Et Charles m'a dit, parce que les 3 000, 4 000 morts qu'il y a eu au cours des dernières années dans la ville de Juarez ne sont pas le fruit du réalisme, mais il y a des personnes derrière tout ça. Je voulais raconter l'histoire de cette personne et la rencontre avec El Sicario. Lorsque j'ai dit, mais c'est une histoire incroyable, on pourrait faire un film. Et il m'a dit, pourquoi tu ne le fais pas ? Au début, je pensais à un film de fiction. Parce que... Et puis je ne sais pas si je le ferai jamais, un film de fiction, parce que le documentaire me donne une énorme liberté. Je veux partir tout seul, avec très peu d'argent, et faire un film comme ça a été le cas pour El Sicario. Et lorsqu'il a contacté El Sicario, il a dit « Oui, je suis d'accord, on peut faire ce film, avec certaines conditions. » Je l'ai rencontré donc, et là, la question s'est posée, comment filmer quelqu'un qui aura un masque ?
Il faut préciser que El Sicario, donc cet ancien bandit, très grand criminel, dont la tête est mise à prix encore aujourd'hui pour 250 000 dollars, a accepté de vous rencontrer. Vous allez nous expliquer dans quelles circonstances. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il soit reconnu, parce que s'il est reconnu, il est immédiatement arrêté.
Oui, les conditions étaient de ne pas filmer son visage, de transformer légèrement sa voix pour qu'il ne soit pas reconnaissable. Et il devait chercher un lieu où il se sentait en sûreté pour se rencontrer. Le lieu était la chambre 164 de ce motel. Et lorsqu'il nous a emmenés dans ce motel, j'ai dit, je ne pourrais jamais tourner dans cette chambre. Elle est horrible, cette chambre super kitsch dans ces motels américains. Et Charles m'a dit, s'il nous a emmenés dans cette chambre, il y a une raison bien particulière. Filmons ici. Je suis resté dans cette chambre la nuit, en attendant qu'il se présente. J'ai commencé à enlever tous les tableaux, le fauteuil. J'ai mis une toile blanche sur le fauteuil. J'ai fait que ça devienne comme un plateau de tournage, le lieu d'une rencontre. Et lorsque je l'ai rencontré le lendemain, lorsqu'il est venu prêt à filmer, j'ai déjà créé dans ma tête une structure de narration. En ayant lu l'article, je savais plus ou moins où je pouvais arriver avec lui. La seule chose importante que j'ai pris dans l'article, c'est que il était graphomane, c'est-à-dire l'écriture était fondamentale. Charles me racontait qu'à chaque fois qu'il parlait, il écrivait sur des petits morceaux de papier qu'ensuite il détruisait. Alors il avait un petit cahier dans lequel je prends des notes et un stylo. Je lui ai dit, tu peux écrire tout ce que tu veux. Au début, il n'était pas d'accord parce qu'il avait peur qu'on reconnaisse ses mains en filmant les mains. Donc. Puis il a accepté et lorsqu'il j'ai commencé à filmer, j'ai vu que l'écriture était pour lui une manière de se détacher et de rentrer dans le sujet. Une autre chose importante était de lui mettre un voile plutôt qu'un passe-montagne parce que le passe-montagne était un passe-montagne de policier. Ça aurait créé une distance énorme. Donc j'avais ce voile que j'avais apporté pour ma caméra. Il a accepté de mettre ce voile où on voyait un peu la couleur de la peau. C'était important de voir qu'il y avait quelqu'un dedans, qu'il y avait un homme. Et de là, le film a démarré. C'est devenu un monologue de 6 heures.
On a du mal à comprendre comment vous choisissez les thématiques de vos films, Gianfranco Rosi.
Les manières dont je choisis ces films, c'est toujours quelque chose de différent. Au début, il y a des rencontres avec des lieux. Boatman, c'était l'Inde. Le Sea Level, c'était le désert américain. Ça a été donc une modalité diverse pour chaque film. Après Sicario, j'ai été approché à Rome par une personne qui m'ont demandé de faire un film sur le grand raccordo anulare, sur le périphérique romain.
Un film sur commission, diciamo.
Je ne pouvais pas faire un film sur commande au début, je me disais que je ne pouvais pas explorer un lieu qui n'appartenait pas à mes expériences. Après une période comme ça, difficile motivation personnelle, j'ai décidé d'accepter cette proposition et de faire ce film, et de faire en sorte que ce film devienne le mien. Sinon, je ne réussis pas, tant que le film ne m'appartient pas, dans le fond, il faut qu'il devienne une image, une synthèse de quelque chose. Pour moi, ce n'est pas possible sinon de commencer à tourner.
Et
c'est la même chose qui s'est produit avec Sacro-Gras quand j'ai dit, bon, maintenant, le prochain film, je travaille sur un sujet que j'ai choisi. J'ai été contacté de nouveau par l'Instituto Luce, qui est une institution italienne, très grosse archives italiennes. Et on m'a demandé d'aller à Lampedusa pour, dans cette période, Lampedusa a été au cœur des médias, des nouvelles. Il y avait comme une nécessité de faire connaître l'essence de cette île. Ils m'ont demandé de faire un film de 10 minutes. Et quand je suis arrivé donc sur l'île, j'ai compris que c'était impossible de faire un film de 10 minutes. Et donc le film s'est élargi et il est devenu un projet sur plus d'un an et demi. Chaque film a son processus, sa modalité.
Alors il y a peut-être quelque chose en commun. On reviendra sur le dernier film qui a obtenu la plus haute distinction au Festival de Berlin. Mais dans Sacro-Gras, celui d'avant, il y a une manière très réaliste. Vous faites du documentaire, mais en même temps, on a l'impression que ce que vous filmez, c'est la fiction. Et dans Sacro-Gras, comment avez-vous réussi à vous approprier ce film, enfin cette réalité, donc le périphérique autour de Rome, pour en faire un objet de fiction?
Pour Sacro-Gras, ça a été le défi le plus évident de tous les points de vue. Même si depuis le début, ça a toujours été pour moi, je me dis jamais, quand je commence un film, je fais un documentaire, une fiction. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est me confronter à la réalité et la transformer en quelque chose d'autre, comme un espace d'interprétation pour celui qui va regarder le film, laisser croître cette distance entre le lieu. Il faut que le lieu et les histoires se transforment en quelque chose d'autre. Et dans les films que j'ai faits, ça s'est accentué de plus en plus jusqu'à Sacro-Gras, qui est presque l'abstraction d'un lieu. C'est un lieu qui appartient plus à l'imagination qu'à la réalité, même si tout appartient à la réalité. Et peut-être avec une approche plus cinématographique, où le langage du cinéma exaspère la réalité.
À chaque fois que vous faites des films, Gianfranco Rosi, vous nous provoquez beaucoup d'émotions parce que vous nous faites réfléchir tout en provoquant de la révolte et de l'indignation. Et le dernier film, donc, qui a obtenu pas seulement le plus grand prix de Berlin, mais qui a obtenu un très grand succès. J'ai eu la chance d'être à Berlin le jour de la projection. Les gens étaient fous de joie de voir votre film. Le dernier film donc se passe à Lampedusa. Lampedusa, ce que vous filmez, d'abord, c'est la vie quotidienne des gens qui habitent cette île, où hélas, à cause de la géographie, beaucoup de réfugiés viennent s'échouer. Comment faites-vous? Quelle est votre méthode? Est-ce que vous effacer à l'intérieur de la vie quotidienne des habitants de Lampedusa, d'abord, avant de filmer?
Ce
n'est pas tellement une question de me montrer ou pas.
C'est
toujours de créer un rapport très fort avec les personnes, d'abord.
Non,
d'abord avec le lieu, en fait.
Et
puis à l'intérieur de ce lieu très fort, qui évoque des souvenirs, évidemment, Lampedusa est lié à l'actualité, où s'est formée à l'intérieur une idée d'un lieu.
Le secondo passo importante,
le deuxième pas est de, justement de rencontrer des personnes
che poi diventano personaggi,
qui après deviennent des personnages. L'important c'est que c'est qu'avec ces rencontres j'arrive à faire en sorte que sorte une idée qui rentre à l'intérieur de l'intimité de ces personnes. C'est comme, comme si l'île en soi se reflétait dans l'état d'âme. À travers cet état d'âme, porté hors de l'île, hors de Lampedusa, les histoires, transformer ces histoires en quelque chose de lointain. C'est le monde des migrants qui arrive à Lampedusa. Ma première rencontre avec Samuel, qui est le personnage principal de ce film, c'est l'histoire, c'est presque un roman de formation autour de cet enfant. À travers cet état d'âme, on se rapproche à un monde que nous ne connaissons pas. Cet enfant que j'ai suivi pendant un an, je suis en fait avec une histoire avec, que nous ne voyons jamais. C'est son état d'âme intérieur qui répond à ce monde lointain que nous ne voyons pas.
Vous ne faites pas un documentaire, vous ne faites pas un film de fiction, vous faites autre chose que vous inventez, Gianfranco Rosi, qui n'a pas de véritable unité. Il y a la vie quotidienne dans l'île avec les habitants, et puis il y a la vie des réfugiés, ceux qu'on arrive à sauver, en pleine mer, non loin de Lampedusa. Et le montage alterne les deux situations, sans donner d'explication. À nous de faire notre chemin à l'intérieur de votre film. Pourquoi et comment avez-vous construit le montage de ce film ?
Le montage de ce film est stato costruito,
a été construit con un'immagine, avec une image. Il est parti d'une image très forte qui a dicté aussi la fin du tournage de ce film. C'est quand j'ai rencontré la mort sur la mer et que j'ai décidé de la filmer. La mort m'est arrivée dessus, en fait. La tragédie. S'est imposé.
Et de là,
j'ai compris que quelque chose s'était brisé à l'intérieur de moi. Donc, je devrais commencer à ce moment-là le montage du film. J'ai décidé d'utiliser ces images parce que les gens doivent voir cette tragédie. Le film a été construit pour arriver à ce moment-là et aussi pour pouvoir en sortir. Chaque photogramme, chaque moment a été comme un parcours, un point d'approche à la tragédie. Mais ce n'est pas suffisant d'arriver à la tragédie. Il faut aussi en sortir et que le public ne retienne pas simplement ce moment pornographique, violent, mais qu'il fasse partie d'un récit, de tout un récit. Donc dans le montage, il y a une grande attention aux sentiments intérieurs des personnages, à la suspension que crée chaque personnage. L'enfant, le DJ, la tante Marie, le médecin surtout. La rencontre avec le médecin était fondamentale. À travers le médecin, on arrive vraiment, il nous accompagne par la main dans ce moment-là. On ne se sent pas abandonné avec cette image. Et l'enfant, c'est une sorte de légère métaphore de quelque chose d'autre.
Et c'est aussi,
quand on arrive à la tragédie, on revient avec l'enfant, avec l'île, le silence, avec des moments difficiles pour faire en sorte que cette image devienne quelque chose d'autre et ne reste pas comme ce qu'elle est elle-même en soi.
En fait, quand arrive le moment de la tragédie, de la mort de ces réfugiés, personnellement, je n'ai pas compris que ces personnes étaient mortes sur ce bateau. Et je crois que peut-être vous nous laissez interrogatifs sur le fait que ces gens-là, ils partent de chez eux parce qu'ils en ressentent la nécessité au mépris de leur propre vie. Mais on ne comprend pas tout de suite qu'il y a des gens qui sont morts et puis il y a des gens qui sont encore vivants sur le même bateau. Et vous, quand vous avez filmé cette scène, Gianfranco Rosi, vous avez compris tout de suite?
Et je l'ai capito dopo, parce qu'all'inizio arrivavano.
J'ai compris après, parce que. Au début arrivaient des corps qui étaient des corps moribonds, des gens qui étaient asphyxiés, et je ne comprenais pas pourquoi.
Quindi poi io sono ritornato sulla nave.
Après, je suis revenu sur le bateau, j'ai continué à tourner.
Senza capire quante persone ci fossero
sans
sotto
comprendre
mare,
vraiment combien il y avait de personnes sous, qui étaient en dessous, en fait, sans vie.
Sapevo che c'erano dei morti, ma
je savais qu'il y avait des morts, mais personne ne m'avait dit combien.
Et, poi, quindi, ho girato sulla nave,
et ensuite, j'ai tourné sur le bateau ces moments importants d'émotion, de désespoir.
Et, quasi alla fine della giornata,
et presque à la fin de la journée,
le commandant
m'a demandé si j'étais allé en dessous voir la cale du bateau, et parce que j'avais touché cette tragédie, si je l'avais filmé. Non, absolument pas, je ne voulais même pas le faire.
Le commandant m'a dit
que je devais le faire. C'était une obligation. C'était une obligation envers le monde de faire voir cette tragédie. Et j'ai fait en sorte de revenir sur le bateau, rentrer dans la cale et de filmer ces images. Et pour moi, ça a été très dramatique. Je n'ai jamais filmé la mort comme ça.
Et
l'idée d'être devant des cadavres et d'essayer de faire une image. D'exposer la lumière, de décider de faire un cadre, de faire un récit. C'était très dur. C'est là, c'est cassé quelque chose à l'intérieur de moi. Je savais que je devais le faire. C'était important de le faire.
Après, vous nous permettez à nous spectateurs de garder en mémoire ces images totalement insoutenables et en même temps que nous devons voir par un étrange mélange de poésie et de métaphysique. Avec le personnage de ce petit garçon qui est le fil narratif de tout votre film et qui passe son temps à faire quoi dans son île natale, celle de Lampedusa, à chercher des oiseaux.
Une autre chose prima, parce que quand
je suis allé en dessous, dans la cale, je me suis rappelé des paroles du médecin quand il faisait l'échographie.
Il disait qu'il y avait des corps où lui ne réussissait pas à distinguer les bras et les jambes.
Il disait qu'il y avait des corps où personne n'arrivait à distinguer les bras des jambes.
Et quand je filmais sotto, quindi quand je filmais dessous, di vita,
c'était une image de vie, quand il parlait des jumeaux.
Però la descrizione del medico, de non
mais
trovare...
la description du médecin de ne pas trouver. Le corps à l'intérieur du ventre de la mère, distinguer les bras, les jambes. Quand j'étais en dessous, je ne comprenais rien dans la confusion. Je ne comprenais pas où étaient les bras, les jambes, les têtes. Et j'avais toujours ces paroles du médecin qui m'ont guidé dans ce moment de lucidité, de quelques minutes que j'ai eues pour filmer.
Et ce petit garçon qui commence le film et qui le clôt.
Et en fait, la vie et la mort se superposaient dans le film.
Oui, mais il y a les oiseaux. Il faut les chercher jour et nuit, les oiseaux.
Et bien sûr,
l'oiseau
est un moment merveilleux du film parce qu'il arrive comme ça, de manière inattendue. Je suivais dans la nuit les aventures de Samuel, qui est ce gamin curieux qui aime aller dans les bois. On le suit dans l'obscurité. Quand la scène arrive, après le drame, après la tragédie, c'est comme si celui-ci nous guidait. Il arrive. Arrive à vaincre la peur que nous ne connaissons pas. On trouve une manière presque mystérieuse, cet oiseau qui lui parle, et lui parle à l'oiseau. Et là, il y a un secret. Le secret de ce qui, dans ce qui se raconte. Je ne sais pas ce qu'a dit cet oiseau. Mais chacun de nous peut imaginer le dialogue qu'il y a entre l'enfant et l'oiseau. Et c'est peut-être ça le secret.
Dernière question, Gianfranco Rosi, vous faites un cinéma très déroutant, à la fois très conceptuel et très réaliste, qui nous emporte très très loin à l'intérieur de notre tête et de notre cœur et de notre cerveau après les films que vous avez faits. Est-ce que vous maîtrisez et est-ce que vous comprenez tout ce que vous nous donnez?
Non, quando giro non sono
assolutamente. Quand je tourne, je ne sais pas. Je vis dans une sorte de limbe. Je n'ai pas vraiment conscience d'où le film va arriver.
Quando inizio un film, mi svuoto
totalmente. Quand je commence un film, je me vide complètement.
Et non voglio avere in testa nessuna storia.
Je ne veux pas avoir en tête aucune histoire.
Devo far sì che sia la realtà a parlare.
Je dois faire en sorte que ce soit la réalité qui me parle.
Et non ho mai un'idea di una struttura narrativa.
Je n'ai pas une idée d'une structure narrative.
Non so quanto un personaggio.
Je ne sais pas combien.
Dove mi può portare un
personaggio? Peut me porter.
Dove mi può portare una storia?
Où il va me porter l'histoire.
Però la scopro man
mais je le découvre petit à petit.
Quindi per quello dico che il tempo è fondamentale.
C'est pour ça que je dis que le temps est fondamental pour mes films.
Molto tempo e non devo avere un
Je dois avoir toujours beaucoup de temps, mais pas un temps fini.
Perché il tempo del film è il tempo dei personaggi.
Parce que le temps du film est le temps des personnages.
Il
temps que je passe avec eux.
È il tempo della memoria.
C'est le temps de la mémoire, le temps de l'histoire.
E quindi inizio e non so mai dove
finirò. Donc je commence et je ne sais jamais où je finirai avec ce film. C'est une écriture qui se déroule au fur et à mesure que je filme. C'est un peu comme si la caméra devenait mon stylo. C'est un monde que je découvre avec l'œil.
Dentro il viewfinder.
À l'intérieur de l'objectif. Je n'arriverai pas à tourner avec un écran.
Quand
je tourne, je dois avoir l'œil dans l'objectif.
Je
dois enlever tout ce qu'il y a autour. Et je dois faire en sorte que ce moment devienne unique.
Et
qu'il me porte à une structure narrative que quelquefois je découvre en tournant.
So che questi sono i momenti che sempre
hanno dans ces moments il y a des narrations qui commencent et finissent constamment.
E ogni momento deve avere una sua forza,
et chaque moment doit avoir sa vérité, sa force.
C'est
pour ça que c'est difficile de parler de fiction ou de documentaire. Ce qui m'importe c'est savoir si une chose est vraie ou fausse.
E questo è nell'arte,
ça c'est dans l'art, dans l'écriture. Dans la photographie, dans la peinture.
Pour moi, la distinction
entre documentaire et la fiction,
ce
n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est vrai, ce qui est faux.
Et
je découvre cette vérité constante pendant que je travaille. Et la vérité, c'est la vérité des personnages que je rencontre. L'essence de leur personnalité, de leur être.
Et
donc, des histoires qui me le font traverser.
Mi danno l'opportunità di seguire.
Qu'il me donne l'opportunité de suivre. C'est toujours une surprise pour moi. Il n'y a jamais rien d'écrit, de piloté.
E poi chiaramente nel montaggio.
Clairement dans le montage, c'est toute une autre phase d'écriture où il y a un parcours émotionnel très fort, intérieur. Chaque scène a coïncide entre c'est comme s'il y avait entre une nuit et l'autre une sorte d'espace, un espace de silence narratif où chaque histoire doit suivre une autre histoire. Il doit y avoir un état d'âme très précis, une cohérence qui se forme.
Ed è poi quello che sostiene
c'est toujours ce que
quando parlavo prima di oltre, di quell'altra cosa che
je prétends quand je parle de ce qu'il y a au-delà.
Merci Gianfranco Rosi, je rappelle que vos films sont disponibles en DVD et bonne chance pour le nouveau Fuoco a Mare. Merci à nos traducteurs Paolo Fulchignoni et Olivier Favier. Merci à l'équipe de Hors-Champ, Arthur Gerbeau, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.